Voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour la possibilité de se réunir tous ensemble. Seigneur, nous regardons à toi pour recevoir la parole. Seigneur, ce ne sont pas des hommes qui peuvent donner la parole, il n'y a que toi qui peux donner la parole. Nous prions aussi pour notre frère Paul, encore tous ensemble. Seigneur, nous te demandons de le visiter puissamment. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit, nous le savons. Nous savons, Seigneur, ce que tu peux faire et nous te le présentons, Seigneur, afin que ce que tu as décidé pour lui s'accomplisse dans la paix, dans la joie et pour la gloire de Dieu. Amen. Nos vies, n'est-ce pas, ne sont pas linéaires. Parfois ça va moins bien. Parfois, carrément, on est en miettes. Est-ce que quelqu'un est en miettes ce matin? Ne levez pas le doigt, mais on se sent des fois comme ça, n'est-ce pas, complètement décomposé à l'intérieur. Et on se demande ce qui se passe. On se demande ce qui se passe. Il y a quelques années, les boulangers ont trouvé une solution pour les miettes. Hein, le pain invendu, on le jetait, quoi. Et puis, il y a quelques années, ils ont trouvé une solution, c'est de réduire le pain en miettes, le laisser sécher et de le réduire en miettes pour en faire une sorte de farine. Et donc, une fois qu'ils l'ont broyé, eh bien, c'est réintroduit dans d'autres fabrications. Ça peut être du pain, mais ça peut aussi être des pâtisseries, ça peut être d'autres choses. Et donc, ce pain en miettes, finalement, eh bien, retrouve une fonction. Et celui qui n'avait pas été donc vendu, eh bien, s'est transformé pour fabriquer quelque chose qui peut-être même des fois est meilleur que ce que c'était initialement. Alors, beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, nous portons un peu ce fardeau de miettes à l'intérieur de nous, parfois, pas toujours, mais parfois. Et parfois de façon très très forte. Quelque chose qui ressemble à du pain invendu. Quelque chose qui n'a plus de valeur, en fait. Quelque chose qui ne sert à rien. Des relations familiales brisées, une addiction qu'on croyait vaincue et qui ressort, une colère qu'on pensait avoir maîtrisée, et tout d'un coup, ça ressurgit du jour au lendemain. Et alors, il y a cette pensée qui s'installe, franchement, en fait, je suis qu'un raté, quoi. C'est sans espoir. C'est sans espoir. Dieu doit en avoir assez de me reprendre à chaque fois sur les mêmes choses. Cette pensée, j'aimerais qu'il n'y a plus rien de bon, n'est-ce pas, en nous parfois. J'aimerais vous la détruire. J'aimerais qu'on arrive à réaliser à quel point cette pensée est une pensée directement venue de l'enfer pour nous anéantir. Et pour ça, on va aller dans un texte, certains le savent, dans Jérémie 18. Et c'est l'histoire du très connue du potier, n'est-ce pas? Je vais lire en allant, je vais lire un peu, commenter, et comme ça jusqu'à ce que je m'arrête. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, comme il trouva bon de le faire. Jérémie observe là le potier au travail. Et à un moment, le vase rate. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez déjà vu peut-être des potiers travailler. Le vase rate. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le vase qui a raté n'a pas été jeté. Il a été repris dans la main du potier. Et immédiatement après, il en a fait un vase tel qu'il lui convenait de faire. Quand on se sent en miettes, quand on se sent fatigué, il y a une grande différence entre entendre dire « Tu as échoué, c'est fini, tu t'en remettras jamais ». Alors, les paroles ne sont pas toujours aussi saignantes, mais parfois c'est comme ça, n'est-ce pas ? C'est fini, tu as échoué. C'est pas pareil que d'entendre une phrase qui dit « c'est pas perdu, on va recommencer ». Parce que la première, c'est une condamnation. Et la deuxième, c'est une nouvelle espérance. Et c'est ça que Jérémie 18 enseigne. Le potier ne rafistole pas un vase qui est cassé. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de lui redonner sa forme telle qu'il avait initialement voulu lui donner. Il va refaire un vase, mais qui sera différent. Beaucoup d'entre nous, on passe notre temps à essayer de redevenir ce qu'on était avant l'échec, avant que ça ne se passe, avant que quelque chose se produise et qui nous a détruits, alors on essaye de regagner le terrain perdu, on essaye de se retrouver tel que nous étions avant. C'était un peu la prière de Job, n'est-ce pas ? Il souhaitait que Dieu lui redonne le statut qu'il avait avant. Mais Dieu avait un autre plan. Et c'est pareil pour nous. Dieu veut créer une nouvelle forme à partir de la même matière. Et dans le verset 6, n'est-ce pas, on lit donc verset 5, « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Verset 6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Selon la façon dont on le lit, on pourrait penser à une menace. Est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux avec vous ? Mais en fait, c'est l'inverse. Cette main qui vous tient est une main qui reprend l'ouvrage et qui l'ajuste au cours de votre vie. Dieu est un potier sérieux, appliqué, qui continue de travailler tant que l'argile n'est pas formée. Et si vous êtes en miettes, si vous portez un fardeau ce matin, si vous chutez sans arrêt sur le même péché, si vous n'osez plus prier parce que vous vous sentez hypocrite, alors il y a une bonne nouvelle. c'est pas à l'argile de se relever. N'est-ce pas ? L'argile ne peut rien faire, c'est une matière inerte. L'argile ne peut pas dire au potier, il faut que je remonte. C'est le potier qui vous saisit entre ses mains. C'est lui qui vous tient. Et c'est lui qui continue à travailler. La seule condition, c'est de le laisser faire. Et donc la question qu'il faut évacuer de nos têtes et de nos prières, c'est: est-ce que je vais redevenir un jour comme j'étais ? Et la question qui reste, c'est: est-ce que je suis entre les mains du Seigneur ? Et est-ce que je veux y rester ? Ou est-ce que je veux m'en écarter ? Aller voir ailleurs. J'aimerais, avant de continuer sur ce thème-là, vous donner un conseil de lecture. Quand vous lisez, surtout Jérémie et d'autres, Romains aussi par exemple, ne prenez jamais un verset isolé pour comprendre comment Dieu agit. Un verset, ça s'éclaire par son contexte. Et ce que dit Dieu de lui-même dans un livre ne contredit jamais ce que dit Dieu de lui-même ailleurs. Le passage qu'on va lire, à partir du verset 7, m'a longtemps troublé, parce qu'il ne connaît pas avec l'image que j'avais d'un Dieu dont la parole ne change jamais. Je lis à partir du verset 7. « Soudain, je parle sur un peuple, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si ce peuple sur lequel j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur un peuple, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si ce peuple fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Je me repens, ça veut dire je change d'avis. Je change ma façon de faire. En fait, là, on pourrait avoir l'impression que Dieu change de caractère, qu'il est malléable. Mais en fait, non. Il ne change pas de caractère. Mais il change la façon de faire avec nous. Mais ça, ça dépend de notre réponse. C'est un principe que Dieu pose une fois pour toutes. Et qui reste vrai dans toutes les situations, dans toutes nos situations, et il n'a pas besoin de se répéter pour cela. Donc c'est ce qu'on appelle une condition implicite. Dieu l'a dit, l'a fait savoir une seule fois, et ça reste valable dans toutes les autres situations. Parce que si nous disons non, ça ne reste pas valable dans toutes les autres situations, eh bien nous sommes en train de faire mentir Dieu. On le voit avec Jonas. Le message donné à Ninive était sec et sans condition. Il y avait pourtant une condition implicite. 40 jours. Je vais vous détruire dans 40 jours. Pourquoi pas tout de suite ? Pourtant, Dieu n'a pas averti, il n'a pas dit, mais si vous repentez, tout ça, ça va changer. Il n'y avait rien de ça. Il fallait que Ninive comprenne que 40 jours, c'était le temps que Dieu leur donnait pour se repentir. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait et ils ont bien fait, n'est-ce pas ? Le peuple se repent, la ville est épargnée. Dieu n'avait rien précisé, mais il a changé sa façon de faire avec eux. Pourquoi est-ce que je m'arrête là-dessus ? Parce que parfois, on a l'impression, n'est-ce pas, que quand Dieu a parlé, on a été jugé, surtout si on a été pris en train de pécher, si on a fait quelque chose de mal, et si on est en miette. Or, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Et aussi, il y a deux impasses, n'est-ce pas, lorsque on pense de cette façon-là, dans lesquelles on peut tomber ou entrer. Et la première, c'est la panique religieuse. Recevoir une parole de correction de la part de Dieu, ou des fois c'est un ancien qui va vous parler, qui va, ou un frère même, ou une sœur, qui va être un peu direct. Ce n'est pas un jugement sans appel définitif. Ninive montre que Dieu ne fonctionne jamais de cette façon-là. Une parole de jugement, c'est avant tout une main tendue. C'est pas une porte fermée. La seconde impasse possible, c'est l'inverse, le laxisme spirituel. N'est-ce pas? Comme quoi, ça je l'ai entendu souvent, on reçoit une promesse de Dieu et les promesses de Dieu sont oui et amen. Et donc, une fois qu'on a eu la promesse, c'est bon. Ça tourne tout seul, il n'y a plus rien à faire. Notre récompense, c'est la promesse de Dieu. Mais ça ne peut pas être acquis sans l'engagement du cœur. Une promesse ne tourne jamais toute seule. On l'a vu dans le texte, elle est conditionnelle à la façon dont on réagit. Et donc ce que ce texte nous invite à faire très concrètement, c'est de changer notre manière d'écouter Dieu. Recevoir sa parole comme celle d'un potier attentif à son ouvrage, avec les yeux fixés sur nous, pas sur le jugement ou une promesse figée dans le temps. Ce qui compte, c'est Dieu qui nous regarde, Dieu qui nous parle, Dieu qui veut travailler l'argile que nous sommes. Verset 11. Ainsi, parle donc à Juda et aux habitants de Jérusalem. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon l'obstination de son mauvais cœur. Dieu appelle à changer d'attitude. Et la réponse du peuple, c'est de dire, oh ben c'est en vain, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ils savent que Dieu pourrait les accueillir et ils choisissent de ne pas le faire. Peut-être que vous avez chuté souvent. Et vous en êtes arrivé au point où vous dites, mais ça ne sert à plus rien. Ça ne changera jamais. Ou alors vous connaissez quelqu'un comme ça. Ah mais il chute toujours. Ça ne servira à rien. En psychologie, on appelle ça l'impuissance apprise. À force de croire que rien ne changera, on arrête même d'essayer. Mais ce n'est pas Dieu qui a fermé la porte. C'est nous, c'est ceux qui ont cessé de croire. Verset 12, donc, il est dit, ils agissent selon l'obstination de leur mauvais cœur. C'est une façon, n'est-ce pas, de se conduire, qui nous éloigne de Dieu. Et cette expression, l'obstination de son mauvais cœur, Ça fait écho à un verset que peut-être vous avez déjà repéré, juste avant, dans le chapitre 17, au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Sorti de son contexte, ce verset peut faire des ravages. La plupart du temps, il est appliqué à tous les êtres humains, y compris aux croyants nouveau-nés. Nés de nouveau, pardon. N'est-ce pas ? C'est une façon d'envisager la vie chrétienne comme on est des pécheurs, on restera tout le temps des pécheurs, et quoi qu'on fasse, on sera sans arrêt soumis au péché. Ce type, cette façon de voir la vie chrétienne produit des chrétiens qui se méfient d'eux-mêmes en permanence. Des chrétiens qui s'observent et peut-être observent les autres aussi en permanence. Qui s'épuisent à l'introspection. Comme si la foi consistait à ne jamais se faire confiance. Et ce n'est pas ce que le texte nous enseigne. Le texte dénonce l'attitude d'un peuple précis, Israël, qui refuse la main de Dieu. La preuve, c'est que si ce verset décrivait tous les cœurs humains sans exception, eh bien, il décrirait aussi celui de Jérémie et de tous les autres restés fidèles, Job, Daniel, Siméon, Anne, Marie aussi, qui a reçu la parole de Dieu et qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Personne n'a jamais vu en eux des cœurs tortueux et trompeurs. Bien-aimés, si vous êtes en Christ, ce verset ne vous décrit pas. Si vous êtes en Christ, le verset qui vous décrit aujourd'hui, c'est celui d'Ézéchiel, j'ai oublié. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat. Ça veut dire que Dieu a fait avec le même argile un vase nouveau. Et on le voit clairement dans les évangiles, quand un jour on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. La foule et les religieux sont prêts à la condamner. Mais Jésus stoppe ça. Il nie pas la faute de la femme. Il dit simplement « Va et ne pêche plus ». En fait, il la remet sur le tour du potier. Et sous-entendu, n'est-ce pas, demain, tu seras un autre vase pour la gloire de Dieu. Au chapitre 19, le texte devient encore plus concret. Dieu envoie Jérémie acheter cette fois-ci un vase déjà cuit. Et au verset 10, on lit, il lui dit de le casser, d'aller le casser en public. Et il dit ensuite, « Ainsi je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli. » Et là, n'est-ce pas, on voit le contraste. Au chapitre 18, l'argile est molle. Un vase raté peut toujours être repris. Et au chapitre 19, l'argile est cuite. Une cruche cassée ne se recolle plus. Le vrai danger pour nous, ce n'est pas d'être imparfait ou de se sentir imparfait. L'argile molle, est imparfaite par nature. C'est pour ça qu'elle a raté sur le tour. C'est pour ça que certaines pièces ratent, parce que dans sa composition, eh bien, il y a des choses qui font que parfois, on n'arrive pas à faire aussi bien avec un paquet d'argile qu'avec l'autre. Le vrai danger, c'est de refuser de rester sur le tour du potier. Donc ne passons pas notre temps à nous observer et à nous demander si enfin nous sommes devenus des vases parfaits. Parce que ça va nous épuiser. Et ça va nous faire faire des détours spirituels. Posons-nous la question, est-ce que je suis encore entre les mains du Seigneur? Ou est-ce que j'ai fui? Est-ce que je suis allé quelque part d'autre? Parfois, on se demande, mais comment est-ce que je peux plus me rapprocher de Dieu? Eh bien, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, mais vous pouvez rester sur le tour. Vous pouvez ne pas sortir de l'échoppe du potier. C'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Ce n'est pas en cherchant d'être plus performant, en cherchant d'être plus disponible intellectuellement, c'est en restant là où Dieu peut vous travailler entre ses mains. Vous savez, un enfant qui revient sans cesse vers son père, lorsqu'il tombe, même s'il est fatigué, eh bien, il reste plus proche de son père qu'un enfant qui se cache parce qu'il a honte de tomber. Dans Jean 14, Jésus parle aux disciples et leur dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et un peu plus loin, il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je resterai avec vous. Voilà. Bon, je n'ai pas les paroles exactes, mais... Jérémie parlait d'une main qui va retravailler l'argile de l'extérieur. Jésus promet quelque chose de plus, de plus fort. Il va donner la vie à l'argile. Des années plus tard, l'apôtre Paul écrit aux Romains, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? J'aimerais que vous fassiez un exercice à la maison. Vous lisez Romains 7, et vous comptez le nombre de fois où vous lisez le pronom « je ». Je vous le dis en avance. Ça change un peu selon les versions, mais une trentaine de fois. Vous allez ensuite dans le chapitre 8. Vous comptez le nombre de fois où vous trouvez le mot esprit, Saint-Esprit. En quelques versets, vous le retrouvez une vingtaine de fois. Alors qu'il n'apparaît pas dans Romains 7. Ce que l'argile ne pouvait pas faire seule, l'Esprit le fait en elle. Le potier lui-même, en Christ, vient à l'intérieur de l'argile pour lui donner la vie. Et Paul reprend l'image du potier un peu plus loin. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et il précise ensuite pourquoi. Afin de faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Mais là, Dieu n'est pas en train de faire un tri d'avance sur des personnes. C'est Israël lui-même qui a reçu le Messie et qui l'a refusé. Mais même là, l'apôtre Paul le dira plus loin, dans Romains 11, ils peuvent encore être regreffés. Ce n'est pas trop tard. Dieu n'utilise jamais ce qu'il pourrait utiliser facilement, un pouvoir arbitraire. C'est toujours de la grâce. Et l'apôtre Paul encore fera cette promesse à l'église de Philippe alors qu'il est en prison. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Ce en qui Jésus-Christ a commencé une bonne œuvre. Chez Jérémie, tout dépendait de la réponse du peuple. Ici, la promesse repose sur la fidélité du potier. Lui-même qui s'engage à finir ce qu'il a commencé. C'est la différence qu'il y a entre la religion de l'effort et l'évangile de l'abandon. Vous n'avez pas à vous forcer chaque matin à rester souple par votre propre volonté. Je veux dire par là que plus vous prenez de l'âge, plus vous avez besoin de le faire. Restez souple, parce que on est de plus en plus raide le matin quand on se lève, n'est-ce pas? Il y en a qui me regardent avec des demi-sourires, donc ils savent de quoi je parle. Mais il ne s'agit pas de ça. Spirituellement, vous n'avez pas besoin de faire des exercices de souplesse spirituelle pour que la journée commence bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible et prier, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Parce que l'Esprit de Christ habite en vous. À moins qu'il y ait un doute, mais si l'Esprit de Christ habite en vous, c'est le potier qui habite en vous. N'est-ce pas? Oui? Et c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous reprendra parfois. Mais c'est surtout lui qui vous gardera pour que vous ne partiez pas loin des mains de Dieu. Donc si on repense à nos boulangers et à leur pain invendu, ils n'ont pas jeté les miettes, ils les ont laissées sécher et ils ont fait des pièces, des fabrications nouvelles. Peut-être ce matin, et je sais que c'est le cas pour certains, vous êtes entré ici en vous disant « Je suis un raté, c'est fini. J'ai tout fait rater, j'ai tout... J'espère que vous avez pu comprendre que entre les mains de Dieu, ça n'existe pas. Ce n'est pas Dieu qui rate les pièces, n'est-ce pas ? C'est nous qui, parfois, nous éloignons de lui. Il suffit de rester à proximité, de se rapprocher de Dieu. Rapprochez-vous de moi. Un vase qui rate sur le tour n'est jamais jeté. Il est repris pour devenir une nouvelle pièce. Si vous vous sentez imparfait, ce n'est pas dangereux pour votre salut. Ce qu'il est, c'est de sortir de la présence de Dieu. Celui qui a commencé l'œuvre va la finir. Restez au contact de sa parole. Restez au contact des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, qui peuvent vous exhorter. Et donc, ne passez pas votre temps à vous demander si vous avez fait assez d'efforts. Mais posez-vous la question, est-ce que je suis assez souple entre les mains de Dieu ? Le potier n'a pas changé. Il est toujours le même. Il attend que vous veniez à lui ce matin, tous les jours. Et il fera le travail. Mais il fera autre chose que ce que vous étiez. Est-ce qu'on peut prendre 3-4 minutes pour prier, ou 5 ou 10 minutes, et répondre à cela.